Charles Vassy, le train des suicidés. De tous les mécaniciens des États-Unis, il n'y en avait pas de plus froid en apparence, de plus concentré en lui-même que Adam Swann, chargé de conduire la machine 504 de l'Atlantic and Pacific Royal Railway Company. Presque jamais Swann ne parlait à ses camarades. Il ne buvait pas, il ne fumait pas. Il passait avec sa femme et son petit garçon tous les instants que son service lui laissait de libre. Aussi, lorsque en 4 jours, tous deux furent enlevés par une épidémie, n'hésita-t-il pas une minute sur ce qu'il avait à faire, se suicider. C'était bien simple. Ce fut dès lors une affaire arrangée dans son esprit. Mais comme l'immense douleur qu'il venait d'éprouver lui avait un petit peu dérangé la cervelle, il se dit qu'il ne pouvait se suicider comme tout le monde. 4 jours après l'enterrement, Adam Swann remonta sur sa locomotive comme si rien ne s'était passé. Il ne parla à personne plus qu'auparavant. Seulement on remarqua qu'il lisait assidûment les journaux et faisait de nombreuses visites dans les environs de la ville d'Omaha à la gare de laquelle il était attaché. Personne ne s'était occupé de percer le mystère de ses promenades, et si quelqu'un l'eût suivi et l'eût écouté aux portes, il se fut rapidement rendu compte que Swann faisait spécialement visite aux gens qui venaient d'être frappés de quelques malheurs assez graves pour que leur nom fût mis dans les journaux. Avait-on été ruiné par un incendie? Voyait-on son bonheur brisé par quelque événement inattendu? Swann arrivait, se présentait et commençait par raconter sa propre aventure. Puis il risquait quelques considérations sur les tristesses et le néant de la vie. Et s'il voyait son interlocuteur abordé, bondé dans son sens, il se mettrait alors à expliquer clairement le but de sa visite. Il avait, disait-il, étant lui-même décidé à se suicider, l'intention de grouper tous les désespérés de la commune. Tous prendraient rendez-vous avec lui pour un jour déterminé à la gare d'Orama, où les attendrait un train spécial frété par eux sous un prétexte quelconque. Et en route, à 50 lieues de là, il s'arrangerait pour jeter le train contenant et contenu dans un joli précipice qu'il connaissait et dont il était extrêmement facile de faire sauter le pont à l'avance. Son chauffeur, ami dévoué, voulait bien se charger de cette besogne. De cette façon, on mourrait tous ensemble. Ce serait une fin originale, digne des vrais Américains comme eux. Aux États-Unis, des idées de ce genre-là trouvent toujours des partisans. En 6 semaines, Swann y réunit 40 et quelques adhérents. Il en recruta plusieurs par recommandation. Chacun lui avait remis, contre le reçu régulier, une cotisation de $50 pour les frais du train spécial et du buffet à installer dans ce train. Certains s'étaient véritablement privés pour parfaire la somme. On avait pris jour pour le premier samedi du mois. Tout le monde fut exact, sauf un qui avait hésité et qui s'excusa par lettre au dernier moment. Personne se doutait de rien dans la gare. Et on croyait que ces 40 gentlemen et ladies se rendaient ensemble à quelque partie du plaisir. Swann avait très confortablement organisé toute l'affaire. Il y avait dans le train des cartes, des journaux, des alcools de toute espèce et du champagne à profusion. Bref, de quoi exécuter le grand saut le plus gaiement possible. Swann surveillait l'embarquement de l'œil avec l'air satisfait d'un auteur qui va réussir sa pièce. Les portières fermées, il monta sur la locomotive après avoir dit au chef de station qu'il devait prendre son chauffeur ordinaire en route à quelques miles, et le train sortit de la gare faisant seulement gaiement sonner les plaques tournantes et envoyant crânement son panache de fumée grise dans le ciel. Au sortir de Marat, on se trouve en pleine rase campagne. Pendant que le convoi filait en pays plat, avec une vitesse de 70 000 à l'heure, chacun s'organisa du mieux qu'il put. On sortit les couvertures de voyage, les pantoufles, les pipes. Les amateurs de nouvelles se mirent à parcourir les journaux en se regardant du coin de l'œil, et une vieille lady prit machinalement son ouvrage de crochet auquel elle travaillait depuis 3 mois. Entre-temps, un commerçant ruiné, poursuivi jusqu'au bout par le génie du négoce, vendait une chanson qu'il avait commandée tout exprès pour la circonstance, un gentleman de lettres de ses amis, très discret de sa nature. Oh, le refrain, que je traduis de mon mieux, était à peu près celui-ci. Tous ces gens, traits comme il faut, ensemble ont fait le grand saut. Puis peu à peu, on se présenta les uns aux autres. Et 1 heure plus tard, au moment où le train s'engageait sur les pentes de Murray Hill et courait en soufflant à travers les rochers, les présentations étaient faites. Il y avait véritablement dans ce train étrange une jolie collection de désespérés. Et Swann avait eu la main tout à fait heureuse. Une douzaine d'honorables commerçants que la fatalité avait ruinés. L'un d'eux, un vénérable gentleman, aux favoris blancs, n'avait pas fait moins de 14 à la fois banqueroute en 17 mois. Puis venait une dizaine de malheureux maris trompés qui avaient été obligés de divorcer avec leurs femmes. Quelques veufs, dans le même cas que Swann, 7 ou 8 ladies qui avaient eu des chagrins d'amour, enfin 4 inventeurs malheureux, tous du meilleur monde. La conversation engagée, chacun se raconta réciproquement ses malheurs. Puis, pendant que le train, sifflant joyeusement, franchissait monts et rivières à une allure désordonnée, on déjeuna. Naturellement, les considérations les plus philosophiques furent échangées dans ce repas in extremis. Au dessert, tout le monde s'était formé en petits groupes, suivant ses sympathies réciproques. Les veuves s'étaient rapprochées des jolies désolées, et pour tuer le temps, quelques-uns des divorcés s'étaient mis à jouer aux cartes avec les faillis. Le champagne aidant, tout le monde était devenu très gai. Le temps portait d'ailleurs aux idées couleur de rose, malgré la gravité de la situation. Il n'y avait pas un nuage au ciel. La voie de chaque côté était bordée d'une végétation luxuriante, et l'on traversait les paysages les plus pittoresques et les plus accidentés des États-Unis. Aussi, lorsque, au moyen d'un signal électrique convenu, Swan prévint ses voyageurs que l'accident allait se produire avant un quart d'heure, ce signal impressionna très désagréablement presque tout le monde. Songez qu'une bonne demi-douzaine de romans d'amour s'étaient déjà ébauchés et que d'autres encore se fussent ébauchés sans doute. Que, par une chance extraordinaire, les décavés avaient gagné aux divorcés plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui les remettait à flot. Elle aurait permis, si j'eusse vécu, de recommencer les affaires. La vieille lady au crochet, qui voulait mourir parce que personne n'avait encore compris son âme, avait vu distinctement un ancien solliciteur ruiné la regarder avec langueur. Drelin, drelin, drelin! Une seconde fois, le signal électrique se fit entendre. On n'était plus qu'à 1 mille du précipice. L'amour-propre reprit le dessus. On plia rapidement les couvertures et tous, debout, se mirent à entonner le Yankee Doodle. Un cri tira tout le monde de cette attente véritablement énervante. « My God, nous avons passé l'endroit !» hurlait un des voyageurs qui connaissait le pays. Et en même temps, on entendit une détonation. C'était Swan qui, constatant que son chauffeur, probablement parce qu'il s'était grisé, avait mangé la consigne et négligé de faire sauter le pont, venait de se brûler la cervelle. Ma foi, dû l'estime qu'ont les Français pour le caractère américain, recevoir une grave atteinte, mon devoir est de constater que la plupart des voyageurs, en présence de cette solution inattendue, ne purent retenir un cri d'enthousiasme. La lady au crochet se jeta dans les bras du solliciteur ruiné, et dans tous les coins se formèrent entre veufs et abandonnés des enlacements attendrissants. Ceux qui avaient gagné au jeu comptaient inversement joyeusement leur billet de banque, tandis que les perdants se disaient qu'ils allaient s'occuper de refaire leur fortune, ce qui les distrairait certainement de leur peine de cœur. Il n'y avait pas jusqu'aux 4 inventeurs qui ne se reprissent à la vie, chacun ayant eu en même temps, à part soi, la même idée grandiose, celle de vendre excessivement cher au New York Herald le récit de ce voyage extraordinaire. Ajoutons que le train, livré à lui-même, eut la politesse de s'arrêter juste devant une station où on trouva un excellent buffet et de très beaux arbres sous lesquels on enterra Dan Swan avec gaieté, ciel bleu.